VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide avec vous. Très content de vous retrouver dans le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres que nous allons développer en ce mercredi 2 octobre 2019. L'armée malienne à la recherche de 78 soldats disparus après des attaques djihadistes meurtrières. À venir dans la partie magazine au Cameroun, des politiques réclament un débat sur la forme de l'État lors du dialogue national.
Monsieur le Premier ministre avait arrêté tout de manière unilatérale. Lui qui est par ailleurs militant du RDPC dont on connaît la thèse relativement à cette crise anglophone.
Également dans l'actualité en Tunisie, le second tour de la présidentielle confirmé pour le 13 octobre après des appels à repousser le scrutin. Et le président américain Donald Trump s'exprime sur l'affaire ukrainienne qu'il qualifie désormais de coup d'État. Comme d'habitude, vos rendez-vous avec la Minute Éco et les sports programmés d'environ 10 minutes. Le Mali, pour commencer, l'armée du pays et ses alliés recherchent activement des dizaines de soldats disparus après de violents combats avec des djihadistes parmi les plus meurtriers depuis des mois. De jours d'intenses batailles autour de deux camps militaires près du Burkina Faso se sont soldés par la mort d'au moins 25 soldats maliens de Bamako, le compte-rendu de Kassim Traoré.
Cette énième attaque contre la position de l'armée malienne et la force conjointe du G5 Sahel confirme une tendance qu'on observe depuis quelques années, à savoir l'intensification de l'activisme des groupes extrémistes violents avec des cibles de plus en plus ambitieuses. L'attaque du camp de Boulkessi a été précédée par celle de Mondoro qui se trouve à environ 140 km. Les assaillants ont commencé par le camp de Mondoro où se trouve l'armée malienne, avant de continuer sur Boulkessi, à la frontière avec le Burkina Faso, siège d'un camp de la force conjointe du G5 Sahel. La double attaque, selon le ministère de la Défense et des anciens combattants du Mali, a fait un bilan provisoire de 25 corps retrouvés, 13 rescapés retrouvés, 4 blessés et 78 portés disparus. Des rescapés du Fort 11 ont pris pied sur le camp Fama de Boulkessi ce jour. Et actuellement, le ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, le général Ibrahim Dayrou Dambélé, est sur place. Il supervise le ratissage de la force spéciale malienne qui continue avec les tracts. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et à propos du Burkina Faso, justement, la petite ville de Kongoussi, à 150 km au nord de Ouagadougou, est envahie par des milliers de personnes qui ont fui les violences dans les villages de la région. Ces déplacés ont manifesté ce matin et érigé des barrages sur la voie publique. On y reviendra dans la partie magazine tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, des centaines de partisans de Jacques Mangoua, arrêtés pour détention illégale de munitions de guerre, ont bloqué plusieurs routes pour demander sa libération. Jacques Mangoua est l'un des vice-présidents du PDCI, ancien partenaire de la coalition au pouvoir, devenu le principal parti d'opposition. En République démocratique du Congo, au moins 14 mineurs artisanaux sont morts ce mercredi dans l'éboulement d'une mine artisanale d'or dans l'est du pays. L'éboulement s'est produit à la cité minière de Kampene, située à 180 km au sud de Kindu. Le bilan provisoire fait également état de 3 blessés graves. Toujours en RD Congo, une ONG appelle le procureur de la Cour constitutionnelle à enquêter sur le patrimoine de l'ancien président Joseph Kabila et ses anciens Premier ministre. L'association congolaise pour l'accès à la justice a fait la même demande au procureur de la Cour de cassation pour qu'il en fasse autant contre les anciens vice-premiers ministres, ministres, mistes et vice-ministres. La loi congolaise impose au chef de l'État et aux membres du gouvernement de déposer au greffe de la Cour constitutionnelle leur déclaration écrite de patrimoine familial au début et à la fin de leur mandat respectif. Au Rwanda, un tribunal militaire a inculpé aujourd'hui 25 hommes soupçonnés d'appartenir à un groupe rebelle pour avoir tenté de renverser le gouvernement et comploter avec un pays étranger. Les accusés appartiendraient tous au Congrès national rwandais, un parti d'opposition en exil formé par d'anciens proches du président rwandais Paul Kagame, que Kigali accuse d'avoir créé un groupe armé pour mener des attaques au Rwanda depuis la RD Congo. Les suspects encourent une peine de prison allant de 25 ans à la perpétuité. C'est confirmé en Tunisie. Le second tour de la présidentielle aura lieu le dimanche 13 octobre. Malgré des appels à repousser le scrutin lancé par le parti du candidat emprisonné Nabil Karoui. Davantage avec Yacouba Ouedraogo.
L'instance chargée des élections ne peut ni avancer ni reculer la date des élections en vertu de la Constitution, a déclaré Nabil Bafoun, son président. Il a ajouté que la campagne démarre demain pour ce scrutin opposant l'universitaire indépendant Kaïs Saïd à l'homme d'affaires incarcéré Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment. Hier, le porte-parole de M. Karoui avait demandé que le second tour soit suspendu tant que le candidat resterait en prison. La Cour d'appel de Tunis a rejeté une nouvelle demande pour sa remise en liberté. L'instance électorale et des responsables politiques, y compris Kaïs Saïd lui-même, avaient appelé à une égalité des chances entre les deux candidats au second tour. Le président de l'IZEI dit avoir, je cite, « envoyé des courriers au ministère de la Justice, au procureur général et au juge en charge de l'affaire pour qu'il laisse à Nabil Karoui la possibilité de s'exprimer dans les médias, voire qu'il le libère. » Mais le parquet estime que de solides soupçons pèsent sur Nabil Karoui. L'homme d'affaires a accusé le premier ministre Youssef Chahed, son rival, d'instrumentaliser la justice, ce que rejette ce dernier.
Et pour revenir à cette actualité au Mali, des centaines de jeunes maliens et de femmes de soldats en colère manifestaient cet après-midi à Bamako après le lourd revers, on vous le disait tout à l'heure, infligé en début de semaine à l'armée par les djihadistes dans le centre du pays en guerre. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure avec une analyse dans la tranche magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a confirmé aujourd'hui avoir participé à l'appel entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, entretien téléphonique qui est à l'origine d'une enquête parlementaire en vue d'une éventuelle procédure de destitution à l'encontre du locataire de la Maison-Blanche. Le point avec Abdourahman Dia.
J'étais sur l'appel, a confirmé le secrétaire d'État, qui fait l'objet d'une injonction formelle de trois commissions du Congrès pour leur livrer des documents nécessaires à leur enquête. M. Pompeo s'exprimait dans une conférence de presse à Rome. Les démocrates reprochent à Donald Trump d'avoir demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une conversation téléphonique le 25 juillet, d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. De son côté, le président russe Vladimir Poutine est venu à la rescousse de son homologue américain Donald Trump. Il n'y avait rien de compromettant dans la conversation entre Trump et Zelensky, a déclaré M. Poutine. Ce mercredi, l'inspecteur général du département d'État rencontre des membres du Congrès dans une réunion privée avant l'audition de cinq diplomates dans le cadre de l'enquête des démocrates sur une éventuelle procédure de destitution du président.
Pour sa part, le président Trump dément avoir exercé une quelconque pression. Le chef de l'exécutif américain s'exprime en ce moment même sur cette affaire ukrainienne lors d'une conférence de presse dans les salons de la Maison-Blanche. On vous en donnera plus de nouvelles tout à l'heure. Mais hier soir, dans une série de tweets, il a dénoncé ce qu'il appelle un coup d'État mené par les démocrates. Ailleurs, dans l'actualité, en Irak, cinq manifestants ont été tués, des centaines blessés en 24 heures. Les manifestations se multiplient à Bagdad aujourd'hui face à des forces de l'ordre qui tirent à nouveau à balles réelles, en dépit des appels au calme. Confronté à son premier test populaire depuis sa mise en place il y a quasiment un an, le gouvernement d'Adel Abdel Mahdi a accusé ce qu'il appelle des agresseurs et des saboteurs d'avoir délibérément fait des victimes. Les revendications des manifestants sont variées, de la lutte contre la corruption à celle contre le chômage, en passant par la récente mise à l'écart d'un général populaire. Des milliers de Hongkongais se sont rassemblés aujourd'hui pour exprimer leur colère au lendemain d'affrontements d'une violence sans précédent au cours desquels un manifestant pro-démocratie a été blessé par le tir à balles réelles d'un policier. Des slogans contre le gouvernement et la police ont été scandés. Plusieurs autres manifestations ont également eu lieu dans la soirée. La police a eu recours ponctuellement à des tirs de gaz lacrymogène. La Corée du Nord a tiré ce mercredi un missile balistique au lendemain de l'annonce par Pyongyang de la tenue ce samedi de pourparlers sur le nucléaire avec Washington. Pyongyang a pour d'habitude de procéder à des manœuvres militaires à la veille de réunions diplomatiques. Les États-Unis ont réagi en appelant la Corée du Nord, par la voix d'un porte-parole du Département d'État, à s'abstenir de commettre des provocations et à rester engagé dans des négociations substantielles et soutenues visant à apporter la stabilité et la dénucléarisation de la péninsule. Et très rapidement, pour terminer, la chancelière allemande Angela Merkel affirme que les partenaires européens doivent rester unis face au nouveau compromis proposé par Londres pour éviter un Brexit sans accord. C'est une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là, ce soir. Et maintenant, résumé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talami.
La filiale algérienne du constructeur automobile français Renault risque de devoir arrêter temporairement sa chaîne de montage à partir de novembre pour avoir épuisé son quota de pièces importées. Il ne s'agit pas d'une fermeture de l'usine. Renault Algérie tente de fonctionner à des rythmes moins intenses pour éviter l'arrêt total de sa production. Celle-ci devrait reprendre avec l'arrivée des nouveaux quotas, probablement au début de l'année 2020. Pioneers Holding, l'un des plus importants groupes de services financiers d'Égypte, envisage de se scinder en trois sociétés spécialisées dans les services financiers, l'immobilier et le secteur industriel. La scission aura lieu une fois que le groupe aura finalisé les offres obligatoires pour porter sa participation dans cinq filiales cotées en bourse à 90%. Pioneers Holding souhaite achever l'ensemble du processus d'ici la fin de l'année. Pour finir, la Tunisie a besoin d'environ 2,96 milliards de financements extérieurs en 2020 et envisage d'émettre des obligations pour un montant maximal de 874,24 millions de dollars. Toutefois, l'économie tunisienne en difficulté pourrait croître grâce à une production de gaz plus élevée et une croissance de la production agricole. La Tunisie s'attend également à une production record de dattes et d'huile d'olive, deux de ses principales exportations.
Et maintenant, pour un coup d'œil sur l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Mon dieu d'athlétisme, le Kenyan Rotich en bronze sur 800 mètres.
Oui, Ferguson Chiriot Rotich a été le seul athlète africain médaillé hier. Le plus beau d'ailleurs de sa carrière, le Kenya a créé la sensation en terminant troisième avec un chrono d'une minute 43 secondes 82. Auparavant, il avait toujours fini au pied du podium. L'Américain Donovan Bazière a franchi en premier la ligne d'arrivée avec à la clé un record des mondiaux, 1 minute 42 secondes 34. Il a été suivi du Bosniaque Amel Touka qui a complété le podium avec Ferguson Chiriot Rotich.
La Coupe UFO a livré ses qualifiés pour les quarts de finale.
En dehors du Nigeria, les favoris sont au rendez-vous et promettent de belles affiches. Dès demain, le pays hôte, le Sénégal, facile vainqueur de la Guinée-Bissau en ouverture, fera face au Bénin qui a sorti la Guinée. Le Burkina Faso et le Ghana se croisent encore, déjà adversaires en éliminatoire du CHAN 2020. Les deux équipes se retrouvent. Le Togo tombait du Nigeria à rendez-vous avec la Côte d'Ivoire, vainqueur du Cap-Vert. Enfin, le dernier quart opposera la Sierra Leone au Mali. Sur la voie de la consolation, les éliminés du premier tour seront aux prises. À suivre, entre autres, Guinée-Bissau-Guinée, Mauritanie-Gambie, Nigeria-Cap-Vert et Libéria-Niger.
Ligue des champions ce soir en Europe.
Sadio Mané, Naby Keïta et Mohamed Salah de Liverpool et Salzbourg croisent les crampons à un fil. Les Reds sont en alerte rouge après leur départ raté à Naples. Lille et Chelsea jouent la carte des jeunes. Le LOSC, qui mise sur la jeunesse depuis deux saisons, assume cette stratégie que les Blues ont subie en raison de leur impossibilité de recruter imposée par l'UEFA. Le FC Barcelone fait face à l'Inter Milan sans Junior Firpo, blessé hier à l'entraînement. Du coup, les Blaugrana se retrouvent sans latéral gauche pour ce choc. Ils peuvent en revanche compter sur les retours de Lionel Messi et Ousmane Dembélé. À suivre aussi RB Leipzig-Lyon, Valence-Ajax-Amsterdam ou encore Zenit-Benfica.
et la Nouvelle-Zélande écrasent le Canada au mondial de rugby.
Les All Blacks ont été sans pitié devant les Canadiens pulvérisés 63-0. C'est le plus large succès depuis le début du mondial au Japon. Les Néo-Zélandais, double tenant du titre, sont presque assurés de terminer en tête de la poule B. De son côté, la France a décroché un succès bonifié mais labourié sur les États-Unis 33-9, confortant ses chances d'accéder au quart.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre partie magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Le Cameroun, pour ouvrir cette tranche, le grand dialogue national destiné à résoudre la crise anglophone qui ensanglante l'ouest du pays, se poursuit ce mercredi à Yaoundé. Il a été convoqué en début de semaine par le chef de l'État, Paul Biya. Des personnalités politiques en ont profité pour aborder par communiqué ou sur les réseaux sociaux des questions sur la forme de l'État, sujet exclu par le pouvoir. L'opposant Akere Mouna, anglophone et avocat de renom, a décidé de claquer la porte des pourparlers dès lundi dernier. De Yaoundé, le reportage d'Emmanuel Juntap.
Alice Sadio, la présidente nationale de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, ne se fait plus d'illusions sur le grand dialogue national. Pour elle, les travaux sont mal dirigés par le Premier ministre. C'est d'ailleurs la principale raison qui l'a poussée à claquer la porte dès le premier jour.
Nous nous sommes rendus compte que M. le Premier ministre avait arrêté tout de manière unilatérale. Lui qui est par ailleurs militant du RTPC dont on connaît la thèse relativement à cette crise anglophone. Nous nous sommes sentis un peu à l'étroit. Et nous n'avons pas jugé nécessaire de continuer.
Quant à l'avocat international Akere Mouna, responsable du mouvement NAO, il a annoncé dans un communiqué mardi soir la suspension de sa participation au grand dialogue national. Mais ce matin, rencontré par VOA Afrique, il a opté pour un départ définitif de ses assises.
Je me demandais si on a même suivi les instructions du président de la République. Il a dit que ça concerne le nord-ouest et le sud-ouest. Et le problème brûlant dans le nord-ouest et le sud-ouest est simple, sécession ou fédération. Alors comment est-ce qu'on négocie cela? Et je pensais qu'on allait partir de la renforcer, nous autres, qui ne sommes plus de fédération, quand tout est joué d'avance, on m'a même donné la liste de ceux qui allaient intervenir avant que les gens entrent en salle. Donc je me suis dit, bon, que je sois là ou je ne sois pas là, ça ne change rien, bon, je suis parti.
Célestin Bitigui est le chef de file du PAL, le Parti de l'Alliance libérale, une formation politique alliée au RDPC lors de la dernière élection présidentielle. Mais Célestin Bitigui a décidé de se mettre en retrait temporairement de l'initiative du président Paul Biya et fustige la méthodologie adoptée pour discuter des questions cruciales sur l'avenir du Cameroun.
J'ai lancé une alerte. Je me prépare à repartir aux travaux, à exiger du Premier ministre que non seulement je voudrais prendre la parole, mais également l'inviter à donner la parole à tous les autres participants. Et que c'est à partir de là que nous saisirons quels sont les sujets les plus importants.
En réaction aux défections de certains participants au Grand Dialogue National, le secrétaire général adjoint du RDPC, le parti au pouvoir, Grégoire Wona, a regretté une attitude politicienne. Que les politiciens camerounais qui croyaient pouvoir prendre le Grand Dialogue National en otage pour leurs actions déclarent comme Mme Sadio, président de l'AFP et ses alliés, nous laissent travailler tranquillement pour la paix, a écrit M. Owona sur son compte Facebook. Pour le politiste Aristide Modo, la situation actuelle pourrait avoir des conséquences sur la crédibilité du Grand Dialogue National.
Ces défections ne sont pas de nature à rassurer la communauté nationale et internationale.
400 personnes sont réunies à Yaoundé depuis lundi. Elles sont réparties en 8 commissions et sont chargées de proposer des solutions de sortie de crise en zone anglophone. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, le grand dialogue national initié par le président Paul Biya a été lancé lundi à Yaoundé. L'objectif est de tenter de mettre un terme au conflit qui secoue la partie anglophone du Cameroun depuis 2 ans. Toutefois, ce dialogue se tient sans les principaux leaders séparatistes emprisonnés. Le dialogue national pourra-t-il aboutir à une décrispation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Quel rôle pour la société civile, la classe politique et l'Église dans le règlement du conflit? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Comme promis en début d'émission, retour au Mali. Les attaques menées par des djihadistes contre deux camps militaires à Boulkessi et Mondoro, près du Burkina Faso, ont fait au moins 25 soldats tués, alors que 78 autres sont portés disparus. Le 29 août dernier, au Burkina, 26 soldats ont été tués à Koudougou, dans une attaque également attribuée à des djihadistes. Quels sont ces groupes extrémistes islamistes les plus actifs dans cette région ? Idriss Fall s'est entretenu avec Baba Dakono de l'Institut d'études de sécurité à Bamako.
Oui, ces groupes agissent dans la bande frontalière Mali-Burkina et ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est cette dangereuse connexion qu'on observe entre Ansarou Islam, auquel groupe a été attribué une attaque contre le détachement de l'armée burkinabé le 29 août, et également la Katiba Massina qui opère dans le centre du Mali, dans la zone de Boulkessi et de Mondoro.
Mais qu'est-ce qui dirige cette Katiba?
La Katiba Massina est dirigée par Amadou Koufa. Il y a une brigade au sein de cette Katiba qui est appelée Brigade Ferment, qui opère sous l'égide d'Amadou Koufa, le leader de cette Katiba, qui lui appartient au grand groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, créé depuis mars 2017 et qui regroupe non seulement Ansar Dine, dirigé par Yad Agali, mais également la Katiba Massina, Al-Mourabitoun et d'autres groupes extrémistes violents évoluant dans la zone. L'autre groupe qui agit du côté du Burkina et qui sera en connexion aujourd'hui avec la Katiba Massina dans le centre du Mali, c'est Ansarou Islam, longtemps dirigé par Malam Ibrahim Diko, avant d'être repris par son frère cadet Jafar Diko, après que Malam a été tué par une opération militaire.
Jafar, il a une expérience militaire?
Jafar, il avait longtemps aux côtés de Malam Diko travaillé dans le centre du Mali. Et depuis 2012, quand ils étaient en connexion avec le Moujaou à l'époque, vers la zone de Douenza. Puis après, très très longtemps, ils se sont retirés dans une forêt qui se trouve dans la zone de Boulkessi, un peu au sud de la localité de Ombori. Il a longtemps bénéficié certainement du renforcement de capacités d'un point de vue militaire, de ces différents rapports qu'il a eu non seulement avec le Moujaou, mais plus tard également avec Ansar Dine.
Abou al-Sahrawi, dont on dit que lui aussi il opère plutôt vers le Niger. Mais pourquoi on n'arrive pas à les arrêter ou les liquider?
C'est une grande question, mais au-delà de la liquidation de ces leaders, par le Sahrawi, donc qui incarne un peu l'État islamique dans le Grand Sahara, opérant au Niger, avec le Mali, notamment la région de Menaka, ou que ce soit Yad Agali, paraissent aujourd'hui comme des figures emblématiques, mais qui paraissent également insaisissables. Mais au-delà de cette question, c'est l'engagement de milliers de personnes aujourd'hui à cette lutte armée et au discours qui est promu aujourd'hui par ces personnes-là. Donc, même si on parvenait à éliminer physiquement ces personnes qui sont des figures emblématiques de cette lutte armée, le plus important, c'est de faire en sorte que l'engagement des personnes, notamment de certains acteurs locaux dans ces groupes, puisse s'arrêter. Parce que c'est véritablement là l'enjeu depuis quelques années.
On écoutait Baba Dakono de l'Institut d'études de sécurité. Il était en ligne de la capitale malienne.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, la petite ville de Kongoussi, à 150 km au nord de Ouagadougou, est envahie depuis le week-end dernier par des milliers de personnes fuyant les violences dans les villages de la région. Ayant le sentiment d'être abandonnés par les autorités, les déplacés ont manifesté ce matin et ont érigé des barrages sur la voie publique. Bagassé Koura a joint à Kongoussi Pascal Sawadogo, journaliste dans la région.
Il tenait des papiers graphes sur lesquels on peut lire « Nous voulons rentrer chez nous, nous voulons enterrer dignement nos morts, nous ne sommes pas des affamés, nous voulons retourner en sécurité ». Donc, c'est le message qu'il disait. Aux environs de 11h, le gouverneur de la région du centre-nord, c'est-à-dire Kongoussi est dans la région du centre-nord, il est venu croiser donc les manifestants qui ont barricadé les voies et empêcher toute entrée et toute sortie.
Et qu'est-ce que Casimir Sekda, le gouverneur, leur a dit?
Il a sollicité en tout cas les manifestants de lever les barricades car ils vont ils vont en tout cas trouver des solutions à leurs problèmes. Chose qu'ils ont refusé, mais avec les négociations, ils ont pu en tout cas lever l'inquiétude et en tout cas les populations ont levé les barricades. Il a promis donc de tout faire pour sécuriser les populations, pour qu'ils retournent en sécurité, pour qu'il y ait la sécurité dans leur zone. Alors, les manifestants ont également posé un problème de sécurisation parce qu'ils ont des morts qui ne sont toujours pas enterrés. Le gouverneur a instruit les forces de défense et de sécurité et veillé à ce que ces morts soient enterrés dans les prochaines heures.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est déplacé, c'est seulement ce week-end qu'ils sont tous arrivés là-bas, non?
Bon, presque oui. L'affluence a été trop grande ce week-end. Ils venaient, mais l'affluence n'était pas trop grande.
Oui. Et là, on parle de 10 000 déplacés internes dans Kongoussi seulement. C'est ce que le ministre de l'administration territoriale a dit ce mercredi. Et dans quelles conditions vivent-ils ces déplacés?
Ils vivent dans des conditions vraiment difficiles. Ils sont accueillis dans des familles d'accueil, des connaissances, des amis. Et voilà. Et ceux qui n'en ont pas, ils vivent sous les lignées, sous les arbres, dans des maisons non toilées. Il y en a qui dorment à belle étoile comme ça. Donc, dire qu'ils vivent dans des conditions acceptables, c'est mentir.
Alors, ces gens ont fui des attaques qui ont eu lieu à peu près 20 km. Est-ce qu'à Kongoussi, les résidents ont commencé à s'inquiéter aussi à leur tour?
Naturellement, parce que plusieurs personnes rentrent dans votre ville, même pour contrôler, c'est devenu très difficile. C'est devenu très difficile, des gens qui arrivent avec des bagages, tout est arrivé.
C'était la voix du journaliste Pascal Sawadogo. Il était en ligne du nord du Burkina Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et maintenant, parlons de la République démocratique du Congo. Quatre gouverneurs de province ont accompagné le président Félix Tshisekedi à la 74e Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière à New York, de même que lors d'une rencontre avec le président de la Banque mondiale lundi dernier dans la capitale américaine. Eddie Isango a reçu ici dans le studio de Washington Carly Zanzou Kassivita, gouverneur du Nord Kivu.
Dommage qu'on a pris plus d'un an pour mettre en bout la maladie de virus Ebola, mais nous sommes un État. L'espoir est permis parce que le chef de l'État a réorganisé l'équipe qui est chargée de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Je n'ai que 3 mois comme gouverneur de province. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'activités à notre actif contre la maladie à virus Ebola. Nous avons des perspectives. La meilleure façon pour limiter la propagation de la maladie à virus Ebola, c'est l'adhésion de la population. Et il s'avère qu'à un moment donné, cette adhésion avait été effritée par les communications politiques pendant la campagne électorale, mais aussi par les stabilités de la sécurité au niveau des zones affectées. Alors on a vu des groupes armés s'attaquer aux équipes de la riposte. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'impliqués pour discuter, sensibiliser la population, pour que tout le monde puisse comprendre que nous avons une responsabilité commune de nous faire débarrasser de cette maladie. Et les résultats sont probants. À Goma, il y a pratiquement 2 mois qu'il y a plus un seul cas de la maladie à virus Ebola. À Beni, les indicateurs sont bons et à Lubero.
On a commencé de nouvelles opérations. Il y a même le chef des FDLR qui a été tué. Est-ce que vous pensez que la nouvelle stratégie permettra aussi, non pas seulement de mettre fin à Ebola, mais de sécuriser une fois pour toutes cette population?
Nous sommes concentrés aujourd'hui sur la traque des FDLR et sur la traque de Zadief Nalou. Et nous sommes en train de sensibiliser les groupes armés locaux pour que les enfants de la République puissent donner la chance à la paix.
Quelle est votre politique pour essayer de faire bénéficier aux enfants de la région, le coltan par exemple, ou de commencer l'exploitation du gaz méthane?
Nous sommes engagés devant la politique de la traçabilité. Et nous sommes aussi engagés à accompagner la politique responsable de l'exploitation minière de nos ressources naturelles. Au-delà des minerais, nous sommes une province agro pastoral. Et nous avons présenté devant l'Assemblée provinciale du Nord Kivu un programme qui répond à ces défis-là.
Le chef armé de FDLR, le rebelle Hutu rwandais en majorité, a été tué. Est-ce qu'on peut espérer que c'est fini pour les FDLR? Ils ne vont plus menacer et les Congos, et le Rwanda, et la région.
Il est très, toujours difficile de vous dire exactement il y a combien des FDLR. On peut avoir des estimations. Pour nous, ce qui nous intéresse est que les FDLR puissent arrêter l'aventure meurtrière sur le sol congolais.
Point final à ce monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.